Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Bien après votre disparition, subsistera quasiment à jamais des traces numériques de votre vie administrative, amicale, familiale, sociale, amoureuse, médiatique, politique, intime, très intime, très très intime. Est-il encore possible de ne pas laisser de traces sur Internet, sur les applications, sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur? Est-il vraiment possible d'effacer l'historique de sa vie numérique sur les clouds, les nuages numériques, les disques durs des titans d'Internet, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft? Comment profiter d'un Internet libre et sans entrave et surtout anonyme? Comment revenir en arrière après avoir posté une photo trop personnelle ou un commentaire pas très subtil sur un réseau social? Peut-on vraiment bénéficier d'un droit à l'oubli? Comment faire quand sa réputation est mise à rude épreuve sur le net, comme dans le film « Effacer l'historique » Quelles sanctions contre un ex vengeur, une ex-vengeresse qui révèle votre vie très intime sur la toile? Voilà quelques questions que nous poserons ce matin à nos invités. Et vous, avez-vous tenté d'effacer l'historique de votre vie numérique? Vos traces vous ont-elles causé des problèmes? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. En milieu d'émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Anne-Sophie Jacques.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivaine et journaliste. Bonjour Maxime Gedge, bienvenue. Vous êtes
Bonjour.
Ingénieur et entrepreneur et vous avez ensemble publié aux arènes Déclic, comment profiter du numérique sans tomber dans les pièges des géants du web. Bonjour Jérôme Colombin.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir en vrai.
On se croise parfois dans l'ascenseur. Mais
sans savoir qui peut-être et qui, vous êtes journaliste sur France Info, spécialisé dans les nouvelles technologies, l'auteur de la chronique Nouveau Monde et vous avez publié chez Duno, faut-il quitter les réseaux sociaux, sous-titré les 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube. Bonjour Michael Stora.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue et psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques et sciences humaines. Votre dernier livre ?
Alors, c'était « Et si les écrans nous soignaient ?» psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques.
Alors, c'est le film « Effacer l'historique » de Gustave Kervern et Bruno Delépine qui m'a donné envie de faire cette émission. Vous l'avez vu autour de la table, Jérôme Colombin ?
Oui. Moi, je l'ai vu. Je peux dire vraiment ce que je pense. J'ai pas adoré, ça m'a pas fait mourir de rire. Je trouve que c'est une vision un peu old school, mais ça pose des bonnes questions.
Et c'est un film inter, mon cher Jérôme Colombin.
Désolé.
Question naïve, très naïve, Maxime Gedge. Quand j'efface l'historique sur mon smartphone, ma tablette, mon ordinateur, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que mes recherches passent vraiment à la poubelle et disparaissent à jamais?
Alors, quand on efface son historique, ça concerne uniquement le navigateur sur son ordinateur ou son téléphone. Donc, ce sera éventuellement les personnes qui pourraient réutiliser ce même objet qui ne pourront pas voir quelles étaient vos visites, mais ça n'a aucun rapport avec les sites internet en question et ce qui a été fait de l'autre côté, effectivement.
Notre réalisatrice Stéphanie Texier me disait tout à l'heure au bureau qu'elle a beau effacer ses photos, vidéos, applis, elles reviennent sans cesse sur son smartphone, Anne-Sophie Jacques.
Oui, comme le disait Maxime, effectivement, on peut les effacer de nos petits outils, mais il faut savoir que voilà, ils sont conservés et très bien conservés parce que tout ceci, photos, mails, appels, tout ce qu'on communique en fait, est savamment enregistré, épluché, et tout ça, ce sont des données qui vont servir à quoi ? Qui vont servir à rémunérer les géants qui les utilisent. Et quand je dis géants, je pense aux GAFAM, dont on entendra le nom dans le film. Effacer l'historique avec ce merveilleux « fuck les GAFAM » crié en milieu de film, qui m'a quand même bien réjoui. C'est ça qu'on donne. On donne de nos données et on donne de quoi nous tracer, nous pister, nous surveiller et puis nous vendre, hein, toujours plus, nous vendre des choses dont on a besoin ou dont on n'a pas besoin.
Jérôme Colombin, où sont stockées exactement, physiquement, toutes nos données quand j'utilise Internet, une application
Ah ben voilà, cette question, elle est dans le film, en effet, parce que on essaye de plaquer une vision d'un ancien monde analogique, entre guillemets, sur un monde numérique totalement dématérialisé, totalement éclaté. Donc, c'est pas la bonne question, si je peux me permettre, de se demander concrètement où ça se passe. Plus personne ne sait où ça se passe, en gros. Hein. La réponse peut paraître effrayante, mais c'est ça. En revanche, on peut quand même pister ces données, les traquer, les retrouver. Vous dites, j'efface mes photos, elles reviennent. Attention, on vit pas dans un monde de magiciens. Il y a une explication quelque part, et on peut effacer ces photos si on veut véritablement les effacer. Il faut pas non plus fantasmer. Il y a une part un peu effrayante, mais il y a aussi une petite frange une partie de choses qui nous échappent parce qu'on a du mal à comprendre. Et puis aussi, il y a le côté noir, une exploitation abusive parfois de nos données, oui.
Alors la moindre action sur Internet produit des milliards de gigaoctets de données numériques. Envoyer un mail, acheter une brosse à dents sur Internet, appeler un Uber, courir avec une montre connectée. Ces big data, ces méga données détiennent, on l'a dit, une valeur inestimable, Jérôme Colombin.
Oui, alors ça pose plein de questions. La première, c'est est-ce que vraiment c'est nominatif? Est-ce que ça me permet, ça va permettre de me toucher moi personnellement chez moi, etc. Oui et non, parce qu'en réalité tout ça est anonymisé. Alors on pourrait débattre sur anonymiser, il y a des experts qui vous diront c'est pas vrai, on peut toujours désanonymiser, c'est vrai, etc. Mais la règle grosso modo c'est que c'est anonymisé, on en fait des paquets et après ça fait des panels pour des annonceurs. Ça a toujours existé, la télévision a fait ça, la radio a fait ça, la média a fait ça, le profilage publicitaire a toujours existé. La seule chose c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui permet que ce profilage soit encore plus efficace, ultra puissant, etc. Est-ce que ensuite, nous, on en souffre, d'une certaine mesure, oui. Après, on engraisse les GAFAM, c'est vrai, mais on a un service gratuit qui est extraordinaire, qui a changé nos vies, qui a changé nos façons de travailler, d'interagir avec les gens, etc. Donc, on peut considérer aussi qu'il y a un petit peu du donnant-donnant. Et est-ce qu'il faut, la question, c'est surtout, c'est pas tellement quelles sont les données qui sont captées, ce qu'on en fait, où est-ce qu'elles sont, c'est ce qu'on en fait, plus exactement. C'est quel est le traitement qui va être fait de ces données. Il faut pas qu'ils soient abusifs. Ça, c'était Cambridge Analytica, Facebook 2018.
Anne-Sophie Jacques.
Oui, en effet, il faut faire attention à cette part sombre qu'on a tendance un petit peu à mettre en scène. Cela dit, même si nous sommes des panels et que ces panels ont toujours existé, ont toujours vécu le ciblage publicitaire, vous le disiez très justement, les techniques aujourd'hui se sont énormément améliorées. Elles sont même aujourd'hui presque divines, j'ai envie de dire, parce que on assiste avec cela, avec ce ciblage, pas seulement au fait qu'on récupère nos données pour nous vendre des choses, mais on assiste aussi à ce qu'on peut appeler un réchauffement médiatique, c'est-à-dire qu'on est sursollicité, notre attention est vraiment mise en compétition et mise aux enchères, il faut absolument choper notre attention le plus rapidement possible, et ça a un impact aussi sur nos façons de vivre, sur nos façons d'interagir avec les autres.
Michael Stora.
Oui, alors moi je voyais ce fameux paradoxe. À l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État au numérique, avait évoqué le droit à l'oubli, et surtout pour les jeunes générations, et il y avait ce paradoxe, puisque les ados voulaient tout, sauf qu'on les oublie. Et il y avait ce désir fou d'exister. On voit à quel point les deux grands géants, c'est-à-dire Instagram, Facebook, jouent sur justement cette idée qu'il faut se montrer. Et donc il y a ce paradoxe finalement étrange qui fait que peut-être qu'il faudrait mieux éduquer, mais on sait que dans les cours d'économie, les cours qu'on propose aux collégiens, on va surtout travailler sur cette problématique de la traçabilité, mais finalement sans réfléchir véritablement sur ce qui nous motive à exister de manière parfois totalement exhibitionniste, hein, disons-le, sur les réseaux sociaux.
Jérôme Colombin, on va essayer de ne pas diaboliser ces données qui ont également une utilité pour faire fonctionner ou améliorer des services, les transports, la santé, le commerce ou l'industrie.
Oui, c'est ça le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est que on est en train de toucher du doigt les effets pervers du système, mais ce système, qui veut en sortir aujourd'hui ? Qui, utilisant un smartphone tous les jours ou un ordinateur, est prêt à s'en passer et après à se passer de tous les services réellement formidables que ça procure ? Donc la question, et je rejoins Michael Stora, c'est une question d'éducation, on en revient toujours à ça. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des générations qui ont un peu essuyé les plâtres, qui ont beaucoup souffert, il y a eu des affaires terribles, hein, de cyberharcèlement, etc. C'est dramatique. Mais moi, je garde l'espoir que finalement, ça a été un petit peu les sacrifiés de la première vague, et ça va servir à d'autres. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes sont beaucoup plus prudents par rapport à ce qu'ils publient eux-mêmes sur Internet, etc. Mais c'est vrai que le système est très complexe et on a du mal à avoir une vision claire des choses.
Maxime Guedge.
Oui, alors, cher Jérôme, j'aimerais essayer d'ouvrir aussi la vision qu'on a de cette chose-là. Je pense que c'est pas aussi binaire, c'est-à-dire finalement on doit faire avec, ou bien on doit se déconnecter, bien on peut pas vivre sans. Effectivement, c'est sûr que ce serait extrêmement compliqué aujourd'hui de vivre sans smartphone dans ce monde connecté. Pour autant, l'Internet tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ce que l'on voit à travers le film, c'est qu'il est extrêmement centralisé. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de toucher, qu'on peut toucher du doigt avec ce film, c'est qu'on voit que il y a cette centralisation de nos données chez les acteurs que sont donc les GAFAM, mais cette vision d'Internet n'est pas celle originale d'Internet, et d'ailleurs la technologie Internet est faite pour la décentralisation. Donc quelque part se dire c'est comme ça et puis on peut pas faire autrement, là je ne vous rejoins pas, parce que justement nous avons eu la chance avec Anne-Sophie lors de l'écriture de l'éthique, de rencontrer des personnes et on n'avait pas besoin d'aller si loin que ça en France, qui travaillent à développer d'autres systèmes sur Internet qui nous permettent de bénéficier de tous ces avantages de connexion, de proximité avec les autres, sans forcément avoir à donner nos données à Google, Facebook, etc.
Jérôme Colombin, qui ne peut pas s'empêcher de manipuler son smartphone pendant que vous parlez.
Je prends des notes. C'est trop centralisé, oui. Ça, c'est le vrai problème. Il y a des outils alternatifs, notamment des petites merveilles françaises. Ok, je veux bien. Qui les utilise? Il y a combien de Linuxiens dans la pièce? Il y a combien d'utilisateurs de logiciels libres et de Firefox et qui vident leur historique?
Alors moi, je vais m'associer à Maxime, Jérôme, oui. Pour vous dire que justement, dans Déclic, on part à la rencontre de ces gens qui inventent d'autres outils, des outils qui sont fabuleux, qui respectent nos libertés. Et j'ai envie de dire, c'est un peu aussi à nous, maintenant, de se les approprier, d'abord d'en faire connaissance, de savoir qu'ils existent. On a toute une troisième partie où on liste tous les outils accessibles à tous en quelques clics, où on se protège des trackers, des pisteurs, où on change d'adresse mail. Et c'est pas si compliqué, même si effectivement ça demande un élan, ça demande une volonté. Oui. Mais si on commence à dire qui aujourd'hui le fait, on n'est pas sous Linux, on n'utilise pas les logiciels libres, on n'y arrivera pas. Moi j'ai envie de dire ça existe. De la même façon que on peut déplorer les embouteillages des voitures dans les grandes villes, si on parle pas du vélo, même si tout le monde ne fera pas du vélo, parce que j'ai cru comprendre qu'ils se font voler pour un tiers d'entre eux, il faut en parler, il faut dire que ça existe, il faut dire qu'on peut s'en emparer.
Michael Stora.
Oui, alors moi je fais le psy, mais finalement j'avais participé à une grande table ronde sur une énorme étude sur le fait que 90% des Français étaient très soucieux de leurs données personnelles, mais 90% des Français ne pouvaient pas quitter Facebook, entre autres. Et c'est vrai que Facebook, on a l'impression que c'est un peu comme ta mère, tu vois, c'est-à-dire que t'as envie de la quitter, mais t'y arrives pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport complètement irrationnel à cette idée que il y a une tension, et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en effet, il y a d'autres univers, mais est-ce que justement, on n'est pas dans des sortes de petits villages où il n'y aurait pas suffisamment de monde pour pouvoir finalement créer des communautés?
Mais ces petits villages, justement, il faut qu'ils ouvrent leurs portes, et puis il faut, alors je suis d'accord avec vous, hein, quitter Facebook, c'est très 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 compliqué. Moi c'est facile, j'ai pas Facebook, donc c'est pas compliqué de le quitter, mais c'est très dur, parce qu'on quitte un réseau, moi je loupe toutes les fêtes, toutes les invitations au bar, parce que mes potes sont sur Messenger et pas moi. Donc maintenant, ils ont compris, ils m'envoient des messages avec des pigeons. Mais
toutes les fake news.
Voilà. Mais par exemple, il y a une association qui s'appelle Framasoft, qui est une très grosse association. Enfin, elle est toute petite, mais elle rayonne beaucoup, elle est très suivie. Et ils sont en train de développer un outil qui permettra d'être une alternative à Facebook, du moins dans son côté événement. On fait des groupes, on s'invite, on discute, on échange. C'est un outil qui pourra servir aux militants, qui pourra servir au mouvement des Gilets jaunes s'il avait pu sortir au moment du mouvement. Et donc, il sera là. Et on pourra s'en emparer. Voilà, à nous de le faire maintenant.
Avez-vous tenté d'effacer l'historique de votre vie numérique? Vos traces vous ont-elles causé des problèmes? N'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé à la technique ce matin, Pierre-Yves Derolin, Michel Bézikian et Dienab Sangaré à la réalisation Stéphanie Texier. Et on écoute Jane Birkin.
Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparé McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran. Holly, idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem.
Jane Birkin, ex-fan des 60s.
Hello, my pussy is in the cloud.
Grand bien vous fasse.
So I want to get my pussy is in the cloud. My pussy back.
Sur France Inter.
Comment effacer l'historique de sa vie numérique? C'est notre thème ce matin. Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
Voilà, donc là, je suis devant l'un des plus grands data centers du monde. Plus grand que celui que vous avez près de chez vous. Parce qu'il y en a forcément près de chez vous. Il y en a partout. Pour stocker, pour réfrigérer vos vidéos de chats qui se cognent contre les vitrines de vos lingeries. Monde virtuel, mon cul! Et c'est là qu'il y a mes données. Et je vais récupérer mes données parce que c'est ma vie personnelle. C'est les données de ma vie personnelle. Et c'est mon droit. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est ma vie. C'est mon droit. Voilà. Donc, je vais leur dire. Je vais tout filmer en cas de problème, de toute façon.
Miss, you can't be here. This is private property.
No, I just want to go
miss,
there.
Are you filming?
I just want...
You can't film. You can't take any photos. Put your
I phone just
away,
want
miss.
To go. I just want
no.
to... Mais putain, mais fuck! It's my life there!
Un extrait du film Effacer l'historique avec Blanche Gardin. Alors Jérôme Colombin, je rappelle que vous êtes l'auteur de Faut-il quitter les réseaux sociaux? Sur les données personnelles, nous sommes des victimes consentantes. Il s'agit de servitude volontaire. Nous sommes des complices complaisants?
Ah oui, complètement. Le plus gros problème, c'est toutes les données que nous livrons nous-mêmes. On parlait de Facebook tout à l'heure, sur tous les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'effectivement, le moindre clic, le moindre like donne une petite information. Moi, je parlais deux secondes de ma vision, mon usage personnel. Sur Twitter, je ne réponds pas à n'importe quel sondage. Sur Twitter, vous savez, les petits sondages, vous préférez, je sais pas quoi, rouler en vélo, rouler en voiture, etc. Il y en a certains, je ne réponds pas parce que je sais que ça va contribuer à enrichir mon profil. Et je ne sais pas, effectivement, ce qui va être, l'usage qui va être fait de ce profil-là. Il faut avoir conscience, je pense, de tout ça. Ouais.
Nous sommes des complices complaisants, Anne-Sophie Jacques.
Des complices complaisants, oui, quand on est informé de la façon dont ça se passe, dont l'économie marche. Complaisant à partir du moment où on le réalise, où on est informé, justement, je pense qu'il y a matière à faire attention, comme le disait Jérôme, justement, pas faire attention à pas cliquer n'importe où, même si on est quand même bien piégé, bien entouré. Par exemple, moi, j'ai pas Facebook, mais si je vais sur la page de France Inter, il y a un petit tracker Facebook qui me dit que j'y suis venue. Alors, je ne l'ai pas, mais ils savent quand même que je suis venue. Et puis, une fois qu'on est informé, il faut aussi s'informer sur la façon dont on peut se protéger de tout ça. Et il y a énormément d'outils qui le permettent. On en raconte une bonne partie dans la dernière partie de Déclic, du livre Déclic, des outils qui sont assez simples à mettre en place et qui permettent un peu de se protéger et d'être moins complaisant, en fait.
Maxime Guedge, co-auteur de Déclic.
Oui, exactement. C'est-à-dire que pour continuer avec ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire que à la fois, alors il faut bien comprendre que tout ce qu'on utilise sur Internet va fonctionner avec effectivement ces data centers, ces serveurs. C'est-à-dire que ce qui s'affiche sur mon navigateur ou dans mes applications est le résultat d'un traitement d'informations qui se passe lointain sur d'autres machines. Donc effectivement, dès l'instant où je suis en relation avec Internet, je suis en relation avec d'autres personnes, une entreprise, une association, quel que soit, qui héberge ces serveurs et qui va faire fonctionner le service sur lequel je suis. Donc d'un côté, la façon dont on peut effectivement se détacher de ça, c'est lorsqu'on va sur des sites d'information, etc., utiliser des systèmes qui vont bloquer les trackers qui s'exécutent sur notre ordinateur, et donc ça, on l'explique. Et l'autre partie, effectivement, c'est qu'effectivement, comme le dit très bien Jérôme, c'est que lorsqu'on est sur Twitter ou Facebook, de toute façon, on pourrait utiliser des bloqueurs de tracking. Évidemment, nos actions sont quand même enregistrées puisqu'elles permettent de faire fonctionner l'outil. Et donc, chacune de nos actions est répertoriée derrière sur les serveurs de Facebook. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on a moins le choix, mais je dirais qu'on est complaisant au moment où on veut continuer d'utiliser ces plateformes. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres plateformes de réseaux sociaux qui se comportent différemment, qui peuvent être hébergées par des proches, des personnes de qui vivent sur notre territoire ou qui vivent en France ou ailleurs. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est ce qu'on voit dans le personnage qui est incarné par Podalides, qui
dans Effacer l'historique
à plusieurs reprises de contacter Facebook et qui est sans réponse. Eh bien, dans un Internet qu'on appelle, nous, Internet circuit court, il y aurait peut-être moins ce problème parce que le réseau social qu'il utiliserait serait hébergé peut-être par son voisin ou d'autres personnes. Et donc, on serait dans une relation beaucoup plus de proximité avec les acteurs et les actrices qui font fonctionner ces services. Et donc,
ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne sur ces réseaux. Le principe d'un réseau social, c'est que vous allez être en contact avec des gens, et y compris avec des gens que vous ne connaissez pas. Moi, je veux bien, mais les réseaux faits à la maison, roulés sous les aisselles, comme dirait l'autre, c'est... pardon, mais il n'y a personne, à part pour une bande de copains organiser une soirée, ça ne sert à rien.
Ouais, alors ça me fait penser, c'est amusant, on va dire, je ne sais pas si vous êtes... on doit avoir à peu près le même âge, mais quand a commencé le tri, le recyclage, vous savez, et on entend beaucoup dans les maisons, non mais on va jamais y arriver, enfin je veux dire une poubelle jaune, d'ailleurs jaune, je vais jamais me souvenir de la couleur, et puis de toute façon j'ai trop l'habitude moi de mettre tous mes déchets au même endroit, je vais pas m'amuser à avoir trois poubelles chez moi, et en fait c'est aussi un pli à prendre, une habitude avoir l'information et s'en emparer. Et c'est pas seulement des gens qui font des choses roulées sous les aisselles, avec l'image du geek qui a les cheveux longs, qui mange des pizzas jusqu'à 4 heures du matin et qui s'en fout du reste, qui est moitié autiste. Au contraire, ce sont des gens qu'on a rencontrés, qui sont passionnants, qui sont passionnés, qui développent vraiment des réseaux de, voilà, des réseaux qui sont des alternatives et qui ont cœur à les partager et qui ont cœur à les développer. Oui. Et je pense qu'on peut les rejoindre, au moins ces gens-là, quoi.
Non, mais absolument. Et puis, il faut dire qu'ils existent, il faut les valoriser. Moi, je suis journaliste à France Info, dans le service public, je leur donne la parole. Peut-être pas assez, on me le reproche. Samedi prochain, vous pouvez écouter, j'interviewe une entreprise française qui propose une alternative aux solutions de télétravail des GAFAM.
On nous l'a changé,
etc., etc. Oui, mais parce que, alors, et malgré ça, je sais que je vais passer pour le méchant défenseur des GAFAM, mais je vais vous choquer, je vais vous dire une chose. Se priver des données, c'est une aberration. Et je vais vous choquer parce que moi, j'aime beaucoup la publicité ciblée. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de la publicité qui m'envoie des messages qui me concernent, qui m'intéressent, plutôt que des messages qui ne sont pas faits pour moi et qui sont mainstream. Donc, c'est ça aussi le monde d'aujourd'hui.
Le regard de notre psychanalyste Michael Storin.
Oui, oui. J'étais un peu troublé là sur la question de cette forme de désir, de servitude volontaire. Et en fin de compte, de se demander à quel point est-ce que, justement, on aurait besoin peut-être de réenvisager le bonheur numérique. Je crois que c'est ça, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai été contacté par des sociétés qui travaillaient pour Google pour prôner le bonheur numérique. Et j'étais hyper inquiet. J'ai trouvé ça, ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que justement, au-delà de finalement des données, c'est... est-ce que justement le virtuel n'a pas cette vocation avant tout de servir le réel? Et on est en train de voir à quel point le virtuel, disons les GAFAM, sont en train de finalement prôner une vie où le réel devient de plus en plus pauvre.
Tiens, parlez-nous, Jérôme Colombin, c'est un passage que j'ai bien aimé dans votre livre, quand vous parlez d'extimité. C'est le psychiatre Serge Tisseron oui. qui parle d'extimité.
C'est Lacan qui a inventé ce concept.
Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, dans le livre de Jérôme Colombin, Serge Tisseron...
Michael en parlera mieux que moi, parce que c'est vraiment, on est sur de la...
Oui, c'est le fait de déposer certains éléments de notre vie intime dans le domaine public, afin d'avoir un retour sur leur valeur. Et c'est peut-être ce qui permet d'expliquer cette extimité, ce besoin de dévoiler à ce point sa vie privée sur Internet ou sur les applications.
Mais la France a toujours une culture quand même du cachet, hein, vivons bien, vivons cachés. Avec l'avènement d'Internet au tout début, c'était très impressionnant de voir ce désir d'extimité, tout en sachant que Serge Tisseron avait appelé le blog « journal intime ». Et le journal et le blog, ça ne regarde que les autres. Et donc, on voyait bien ce désir de rompre. Malheureusement, cette forme de démocratisation est devenue un petit peu inquiétante par rapport à la grande banalité que nous avons, que nous proposons.
Oui, et cette plongée dans le virtuel, alors je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, parce qu'on a quand même eu une période de confinement, mais moi je sais qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui se sont sentis confinés chez eux, mais aussi confinés dans le virtuel, c'est-à-dire qu'il fallait passer par des plateformes pour pouvoir communiquer avec ses proches, avec les gens qu'on aime. On était obligés, heureusement qu'elles étaient là, parce que sinon on se serait privé de leur visage, de leur amour et de leurs mots. Et en même temps, on se sentait quand même un petit peu piégé de ça, et pour beaucoup, il y a eu aussi l'envie de s'en échapper, de retrouver un peu des liens qui nous semblent aujourd'hui capitaux, à savoir le toucher, le voir, le se parler, et qui ont envie aujourd'hui de s'interroger à la fois sur les outils, mais aussi sur la société dans laquelle on a envie de vivre. Moi, j'ai pas envie d'être ciblée par les publicités, et d'ailleurs, je n'ai pas envie de publicité. Et d'ailleurs, la publicité...
Il faut aller sur une autre planète.
Et bien, justement, non, il faut pas aller sur une autre planète. Cette planète, moi, je veux pas la laisser aux mains des GAFAM. Cette planète, elle nous appartient aussi. Et cette planète, elle en fait aussi ce qu'on en veut. Elle en fait le monde qu'on en veut. Et je pense qu'on a tout à fait un pouvoir à le récupérer. Et je le souhaite d'ailleurs.
Jérôme Colombin, un mot sur le paradoxe de la vie privée. Nous sommes attachés à notre vie privée, mais dans le même temps, nous adorons partager des informations personnelles.
Exactement. Et c'est complètement paradoxal. Avec des ressorts psychologiques, vous parlez de l'extimité. Il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire que oui, allez voir si on a eu des likes sur ces messages, ben ça sécrète des petites doses de dopamine, c'est agréable, c'est de la drogue, et c'est ce qui fabrique l'addiction. Et ça, c'est mal, entre guillemets, c'est le côté sombre, mais c'est à chacun de lutter, c'est aux parents d'aider les enfants, surtout les plus petits, c'est dans une famille de s'auto-contrôler les uns les autres. Bien sûr qu'il faut, vous dites, on en avait marre du virtuel, oui, mais tout est une question d'équilibre, ça c'est l'histoire de la vie et de la condition humaine. Hein.
Oui, c'est à nous de faire la démarche, je suis d'accord, mais c'est pas que à nous, c'est aussi une question politique, c'est aussi une question de ce qu'on a envie de mettre en place dans ce monde hyper connecté. C'est pas seulement de notre responsabilité, comme de faire pipi dans la douche pour sauver la planète. Il y a aussi, à mon avis, des réponses très politiques, des réponses législatives qui font qu'on n'est pas dans ce monde surveillé et qu'on peut très bien faire autrement.
On est ravis d'apprendre des pans de votre vie privée, Anne-Sophie Jacques. Un mot, Maxime Guège, avant d'écouter la chronique de Julia Foyce.
En un mot, je crois que c'est notre rapport aux technologies. C'est-à-dire que d'un côté, j'entends une forme de responsabilité personnelle. Mais là où il ne faut pas oublier, c'est que nos technologies, on les utilise parce qu'elles ont été designées d'une certaine manière. Et donc, si nous pouvons changer le design de ces technologies, et on peut le faire, eh bien, on se comportera aussi différemment avec ces technologies.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre camarade Julia Foyce, pas son genre.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je suis pas un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? T'as menti?
Ah oui. Mais moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Julia Foyce, j'apprends tous les jours avec vous. Est-ce que c'est sexiste de dire que vous avez un joli chignon?
Ah bah non.
Ah bon, d'accord.
Bah non. Ah, mais faut toujours commencer avec vous. Hein. Tout à la base, tous les jeudis matins, dites-moi.
Alors, vous êtes d'humeur très joueuse ce matin. Mm-hmm. Et dans la série, on ne débat correctement que de ce que l'on maîtrise. Vous avez décidé de tester nos connaissances en matière d'égalité femmes-hommes. Alors, pour bien commencer la saison, un petit quiz. Autour de la rentrée, l'école est-elle sexiste?
Et la réponse en quelques questions.
Je n'ai pas vu les réponses.
Alors,
hein.
Oui, mais j'espère bien.
Cracher.
Sinon, c'est la claque sur la nuque, hein, comme d'habitude. Vous êtes prêts?
Ouh là là, maîtresse Julia.
J'adore. Alors, première question. Les filles travaillent mieux à l'école. Préjugé, hors note préjugé?
Anne-Sophie Jacques.
Préjugé.
Eh ben non, note préjugée, elles ont globalement de meilleures notes, redoublent moins, surtout décrochent moins. 18% des garçons sortent du système scolaire sans aucun diplôme, même pas le brevet, contre 12% des filles. Pour ceux qui restent, plus de 30% des filles vont jusqu'au doctorat contre moins 25% des garçons. La question c'est pourquoi? D'où ma deuxième question. Pourquoi les garçons sont-ils moins bons à l'école? Petit A parce qu'ils sont débiles, petit B parce qu'ils sont moins scolaires, petit C parce qu'ils peuvent.
Michael Stora.
Moi, je remarque en effet, puisque je suis spécialisé dans les décrocheurs scolaires, il n'y a quasiment pas de filles. Je pense qu'elles sont beaucoup plus soumises à une sorte de règle établie de soumission. Je pense qu'en effet, les garçons s'autorisent plus finalement à décrocher.
Et il y a de ça, c'est pas que ça, qu'il y a de ça. Les études en sciences de l'éducation sont toutes d'accord sur ce point. Les adultes sanctionnent moins l'indiscipline chez les garçons, qui finissent au fond par percevoir la transgression comme une marque de virilité, comme quoi ils sont un tout petit peu débiles aussi. À l'inverse, on intime beaucoup plus le silence aux filles, pour qui par ailleurs l'école reste une possibilité d'émancipation. Donc finalement, c'est aussi parce qu'ils peuvent, surtout qu'à l'arrivée, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, sont toujours plus nombreuses au chômage, plus nombreuses à temps partiel. En fait, à quel moment c'est fait avoir, nous ça, je ne sais toujours pas. Troisième question, les garçons sont harceleurs, les filles sont harcelées. Vrai ou faux?
Alors moi je suis nulle, donc je laisse Jérôme
répondre.
Ah bah non, non, ça c'est de l'autocensure très féminine, je ne suis pas d'accord.
Non mais on voit bien qu'aujourd'hui, non, c'est complètement partagé. Hein. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde s'y met.
Alors tout dépend de l'âge dont on parle. En primaire, les filles étant mieux intégrées scolairement, elles sont aussi plus protégées par l'institution et donc plutôt moins victimes de harcèlement. Mais à l'adolescence, ça bascule, les corps deviennent sexuels, les différences s'affirment. Et le harcèlement, c'est pour elles, hein, notamment dans la rue, où elles sont deux fois plus nombreuses à en être victimes, de là à se dire qu'elles feraient mieux de rester enfermées sagement chez elle. Hein, bon, il n'y a qu'un pas que je ne franchis pas. Quatrième question. Dans les livres de maths, les filles apprennent à faire les courses et les garçons à s'amuser. Vrai ou faux?
Tiens, Maxime Guège au téléphone, vous pouvez répondre aussi.
Alors, c'est vrai ou c'est faux?
Alors,
ne peut dire. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai en Chine. Un manuel édité à la rentrée propose un contenu ludique pour les premiers, pratique pour les seconds. Les filles y apprendront notamment à effectuer des achats de fruits et légumes sur le marché.
Ouais. C'est la France des années 50.
Eh ben non, c'est la France aussi de 2020. C'est un rapport du Haut Conseil à l'égalité dans les manuels de CP. 67% des sportifs sont des hommes, 70% des personnages s'occupant des tâches ménagères sont des femmes. Eh ouais, on n'en sort pas. Hein. Quelques années plus tard, toujours dans les manuels de SVT cette fois, combien de manuels de SVT représentent le clitoris correctement? Un seul? tous ne peut dire mais on s'en fout.
Un seul. Ça, par contre, je suis pas nulle à ça.
Alors, vous êtes plutôt pas mal en clitoris, je dois vous dire. Sauf que vous aviez raison, en 2017, il n'y en avait qu'un. C'était le tout premier. Hein. Jusque-là, le clitoris n'était qu'un tout petit point riquiqui de rien du tout. Aujourd'hui, ils sont 5 manuels à le représenter dans sa globalité et la noblesse de ses grandes arches qui lui permettent de poser sans rougir, encore que, aux côtés de sa majesté la Verge. 5 donc, mais pas tous. Ni Hachette, ni Belin, encore à la rentrée dernière. Belin qui expliquait dans les pages du journal Libération. C'est compliqué de tout représenter parce que c'est déjà assez difficile pour les élèves de comprendre comment l'appareil reproducteur féminin fonctionne avec la place dont on disposait. Représenter le clitoris en transparence dessus aurait été compliqué. Bah oui, c'est pour ça. C'est la photo transparente. Je suis con, moi, des fois. Bref. Sixième question. La bonne nouvelle, c'est que les élèves vont pouvoir se rattraper grâce aux 3 séances hebdomadaires d'éducation à la sexualité mises en place par Marlène Schiappa en 2018. C'est vrai ou c'est faux, ça?
Ça va être compliqué à mon avis parce que je pense que ces cours n'ont pas vraiment lieu. Je crois qu'ils doivent se tenir dès la maternelle, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle est bonne, bien vu.
Ah non, non, mais en quiz, je suis nulle. Mais alors par contre, tout ce qui concerne la sexualité, ça va.
Alors c'est... mais c'est mieux dans ce sens-là. Franchement, c'est plus intéressant d'être
tout
mauvaise
à fait...
en quiz et bonne en sexualité.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je garde.
Et bien en fait, c'est faux et c'est même doublement faux. D'abord parce que depuis 1973, les gouvernements successifs ont bien tenté, plus ou moins mollement, hein, c'est vrai, d'intégrer les questions de consentement, de stéréotypes sexistes, de respect du corps dans le cursus scolaire, mais résultat pas grand-chose. Hein. 47% des CM2, 20% des 4e, 12% des secondes ont bel et bien reçu cet enseignement qui, on en conviendra, peut avoir sa petite importance hein, dans la construction des hommes et des femmes de demain. Dernière question, Ali, j'y parle pas. Allez, les cours de récré vont être équipés de fer à friser pour que les petites filles puissent jouer tranquillement à la poupée. C'est vrai, c'est faux?
Ça me paraît faux.
Ouais, c'est faux. Évidemment, c'est faux, parce que dans l'écrasante majorité des établissements, les marquages au sol sont toujours dévolus au foot. Ceux qui n'aiment pas y jouer, ceux qui ne peuvent pas y jouer, ceux à qui on interdit d'y jouer. Autrement dit, les filles, les enfants surpoids en situation de handicap, par exemple, n'ont qu'à se contenter de regarder ces beaux mâles alpha en devenir.
Vous avez constaté ma lâcheté? J'ai soigneusement évité de répondre à votre quiz.
C'est bien, c'est bien.
Allez,
vous améliorez.
Vous pouvez réagir à la chronique de Julia Foy sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Le programme de votre émission Passons Genre le vendredi à 20h.
Eh ben, on va baiser après-midi tout, tiens.
Ah, bah,
oui, avec Ovidie qui repense un petit peu, enfin qui nous aide à repenser la sexualité post-MeToo et avec Martin Page qui avait écrit cet excellent livre pour en finir avec la pénétration.
Ouais, et je sens qu'Anne-Sophie Jacques va écouter.
Ouais,
allez, j'en serai ravie. Dans quelques instants, on vous délivre quelques outils pour effacer durablement son historique sur Internet. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 et on écoute Phoenix.
Thank you.
Phoenix interprété Identical.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Sylvain, c'est maman. Je voulais juste te demander, est-ce que tu peux ne pas aller sur Internet pendant une petite demi-heure, là ? Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive tout de suite, je viens de faire un bisou. J'arrive.
Alors, Colquaise ?
J'ai complètement merdé. J'ai complètement merdé.
De quoi ?
J'ai pas réussi du tout. J'ai refait la connerie avec un Américain, un mec super riche, un gros dingue. Il a tout filmé. Je suis foutu, là. Là, c'est bon, je suis foutu. Hein. Je suis foutu, hein.
Extrait du film Effacer l'historique. Je viens de taper Marina Foïs. Julia Foïs, pardon, sur Internet.
Je ne vois pas de qui vous parlez. Je ne connais pas cette personne.
Eh ben, il y a des sacrées choses sur vous. Hein. Non, je plaisante. Comment effacer l'historique de sa vie numérique? C'est notre thème ce matin. Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Bonjour Bertrand Payès.
Bonjour.
Vous êtes directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Quelles sont les procédures pour bien protéger ces données personnelles?
Alors, on publie sur le site de la CNIL un certain nombre de conseils. On a l'habitude de donner un certain nombre de conseils. D'abord, il faut évidemment faire attention à ce qu'on publie, faire attention à avec qui on le partage et effectivement essayer de s'approprier les différents réglages de confidentialité. C'est le premier point. Et puis, d'une manière générale, essayer de respecter les droits des autres personnes. C'est-à-dire, quand vous traitez, quand vous mettez des photos d'autres personnes, leur demander. Quand vous parlez d'autres personnes, les demander. Quand vous les citez dans des posts Facebook ou Instagram, etc., etc. Et on a aussi beaucoup de conseils autour de la sécurisation pour voilà, notamment des mots de passe. On recommande notamment de sécuriser avec des mots de passe spécifiques. Typiquement, votre mail, vos réseaux sociaux, c'est les premiers sites que les attaquants vont essayer d'avoir parce que s'ils ont accès à votre mail, après ils peuvent avoir accès à tout le reste.
Vous, Julia Foïs, vous les lisez les conditions générales d'utilisation?
Oui, jamais, j'ai pas le temps.
Mais qui les lit d'ailleurs, Bertrand Payès?
Non, je plaisante. Non, en vrai, je plaisante. Il m'arrive de les lire. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'apprête à signer quelque chose, quand même, on regarde un tout petit peu. Ouais.
Bertrand Payès, on est assez peu nombreux à les lire finalement, ces conditions, ces CGU.
Non, alors, en fait, ça dépend des cas. C'est-à-dire que il y a une obligation qui existe depuis 40 ans dans le droit européen, qui est une obligation d'information et de transparence quand on traite vos données. Donc il faut, quand on traite des données personnelles, il faut informer les personnes. Il y a plusieurs façons de le faire. Effectivement, dans de nombreux cas, c'est dans les CGU. Et puis dans certains cas, on demande d'avoir des informations spécifiques. Par exemple, quand on va traiter des données de santé, on va vous demander généralement un formulaire de consentement. Là, moi, j'ai rempli pour mes enfants à la rentrée. Des formulaires spécifiques, est-ce que vous acceptez que votre enfant soit pris en photo, etc., etc., parce que c'est des personnes mineures plus fragiles. Et puis là, en ce moment, vous avez aussi tous les bandeaux cookies, ça c'est parce que, effectivement, la loi considère que ça peut pas être dans des CGU, ça doit être mis en avant de manière plus importante, sachant que le principe vers lequel on doit aller, c'est un principe où, si vous n'avez pas été informé, si vous n'avez pas été correctement informé, si vous n'avez pas accepté, les données ne sont pas traitées, ce qui est évidemment pas toujours le cas, mais d'avoir un principe de protection un peu par défaut des personnes. Après, sur la bonne façon d'informer, c'est un peu comme les contrats d'assurance ou un certain nombre de questions de consommation. Effectivement, il y a toujours un peu un jeu entre certains professionnels et les utilisateurs pour essayer de faire accepter des conditions aux utilisateurs.
Anne-Sophie Jacques, co-auteur du livre Déclic.
Ouais, non, mais je rappelle juste que c'est pas un hasard si on les lit pas, hein, ces CGU, parce que si on les déplie jusqu'au bout, elles sont inaccessibles. Et c'est drôle, il y a une avocate.
C'est non négociable.
Et c'est non négociable. On est obligé de dire oui si on veut utiliser le service. Et il y a une avocate qui avait fait l'exercice il y a quelques années, une avocate britannique, je crois, de traduire les CGU d'Instagram pour que ça soit accessible à des adolescents. Sa traduction était limpide. Et je vous assure, quand vous lisez sa traduction, vous n'utilisez pas l'outil. Mais vraiment.
Bertrand Payès, est-ce que le règlement général sur la protection des données est vraiment utile? Le fameux RGPD?
Alors, on espère, enfin en tout cas on essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Donc ça a 2 ans, donc ça se met en place. C'est un règlement qui est vraiment qui concerne toutes les entreprises, tous les services. Donc c'est là on parle des réseaux sociaux, mais nous on a des plaintes sur mon patron qui me surveille, des plaintes sur je suis un interdit bancaire, etc. Donc il y a vraiment ça concerne tous les champs d'activité économique. Donc ça se met en place. Sur la question de la transparence, par exemple la CNIL a fait une sanction l'année dernière contre Google début 2019. De 50 millions d'euros pour des problèmes de transparence sur Android, en l'occurrence, de justement mauvaise information des personnes qui n'étaient pas assez clairement informées des types de traitement de données qui seraient faits quand ils achètent un téléphone Android. On s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de décisions comme ça, soit de la France, soit d'autres autorités, puisqu'il y a un système de coopération européenne et donc pas mal de ces entreprises, notamment GAFA, sont en Irlande ou au Luxembourg. L'objectif, c'est effectivement de rendre ce RGPD à la fois, de faire changer les pratiques de certaines entreprises et puis de permettre aussi aux gens d'exercer plus facilement des plaintes. On a doublé notre nombre de plaintes depuis 2 ans à la CNIL.
Bertrand Payès, un outil pratique, concret, comment retirer des photos de soi en ligne? Donnez-nous un outil.
Concrètement, pour retirer des photos de soi en ligne, en fait, il y a un principe de, il faut procéder en plusieurs temps. D'abord, vous essayez de demander à la personne qui a publié la photo de la dépublier. Alors, si c'est quelqu'un qui vous aime bien, ça se passera bien. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous tourner vers le fournisseur de réseau social, par exemple, ou la plateforme de photos, pour qu'il supprime la photo. Soit il la déréférence, dans certains cas, il y a une petite subtilité, mais entre guillemets, que la photo ne soit plus accessible. Et si ça ne marche pas, vous pouvez faire une plainte à la CNIL, qui sera du coup instruite, puisqu'on a une obligation d'instruire toutes les plaintes, et ensuite, pour voir avec le fournisseur de réseaux sociaux si c'est possible de supprimer la photo.
Jérôme Colombin, de France Info.
Aussi, sur les choses les plus graves, aller devant un tribunal pénal, puisque dans le cas, je crois, par exemple, de Blanche Gardin dans le film, ça relève plutôt de ce qu'on appelait le revenge porn, sur lequel il y a des dispositions pénales qui ont été introduites dans la loi il y a quelques années.
Quelles sont les dispositions pénales, d'ailleurs, en temps de revenge porn, c'est-à-dire la vengeance où l'on utilise des images très, très, très intimes et qu'on les diffuse sur les réseaux sociaux?
Il y a un article du code pénal, alors je l'ai pas sous les yeux, mais un article de pénal a été introduit par la loi République numérique qui sanctionne pénalement, donc amende et peine de prison pour la diffusion d'images à caractère sexuel sans le consentement de l'intéressé.
Jérôme Colombin.
Mais c'est vrai que la CNIL fait un travail formidable à la fois de veille, de surveillance et puis d'information et de transparence. Alors pour le coup, c'est très lisible en plus les contenus publiés par la CNIL qui sont très grand public. C'est le contraire des conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Moi, dans mon livre, je donnais un certain nombre de conseils d'hygiène numérique et notamment pour essayer de prévenir la cybersurveillance. Il y a des choses toutes bêtes. Vous aviez tout à fait raison de dire je tape Julia Foyce dans Google pour savoir. Alors, il faut pas taper votre nom. Il faut taper.
Calmer, non.
Il faut que chacun tape le sien, en réalité. C'est ce qu'on appelle de l'ego surfing pour essayer de voir un petit peu ce qu'on dit de vous. S'il n'y a pas des choses qui vous ont échappé, des bêtises que vous avez dites ou que d'autres ont colportées, etc.
Jamais.
Michael Stora, psychanalyste.
Alors ça m'intéresse parce que la question de la e-réputation, il y a des agences qui se font un fric dingue.
Ah ben tiens, justement, on a quelqu'un au téléphone.
Mais ça m'intéressait d'avoir l'avis de Julia Foyce sur la. Il y a eu, en effet, il y a plus de 10 ans, une femme ingénieure pour rentrer dans un travail, sauf que plus jeune, elle avait fait des photos d'elle nue. Et finalement, pour rentrer, elle avait demandé à une agence de e-réputation d'effacer les photos, ce qui était quasiment impossible. Donc je crois que je ne sais plus comment ils font. Bon.
On les fait reculer, en fait.
Et moi, je me suis posé la question, mais au fond, elle avait fait ses photos. Pourquoi c'était si compliqué? Donc cette question de la réputation, de l'image que l'on donne est devenue une sorte de complètement délirant.
Je sais pas ce que... C'est-à-dire que de toute façon, on devrait bien avoir le droit de faire ce qu'on veut avec ce qu'on veut, sauf qu'évidemment qu'on n'en est pas là et que le corps des femmes il est à disposition du public pour peu que ce soit le public qui décide ce qu'elles aient le droit d'en faire.
Bien sûr.
Quand c'est nous qui décidons de nous prendre en photo et de poster ou d'échanger, etc., là ça va pas et ça peut se retourner contre nous. parce que c'est toujours pareil, c'est une question de maîtrise et de son corps et de l'image de son corps, et ce qui fait que les femmes sont d'ailleurs beaucoup plus victimes de revenge porn que les hommes, enfin dans des proportions que j'ai pas là en tête, mais qui sont comme d'habitude du simple au triple voire au quadruple. Hein.
Mounira me dit bonjour, vous avez coécrit Bien gérer sa réputation sur internet chez Duno, est-il nécessaire de parfois de se tourner vers des sociétés qui redorent votre blason numérique? Et est-ce que ça coûte cher de le faire?
Alors oui, bonjour. Merci de me laisser ce petit temps justement pour expliquer les éléments liés à l'irréputation. Alors, faire appel à des agences d'irréputation ou de nettoyage, comme on le dit souvent, ça a toujours un petit côté problématique étant donné qu'on n'est pas forcément certain du résultat. On a rencontré des cas de figure, par exemple, pour des dirigeants, pour des marques. C'était notamment le cas lors du Bad Buzz de Findus, où en fait la marque avait fait appel à une agence de nettoyage. Ça avait été fait d'une manière assez maladroite et les journalistes s'en étaient rendus compte, puisque certains contenus avaient disparu, mais d'autres avaient été contredits par les journalistes. Donc ils avaient refusé purement et simplement de retirer les articles. Et non seulement ils avaient refusé, mais ils avaient en plus publié le fait que une société qui avait été payée par Findus les avait contactés pour retirer des articles, et ils avaient refusé ce retrait-là. Et en fait, c'est un peu le concept justement qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire que quand on souhaite supprimer des contenus, en fait, on met tout simplement le focus dessus parce que on a peut-être mis en place une mécanique assez maladroite. C'était le cas aussi pour les photos, par exemple, on parlait tout à l'heure des photos, c'était le cas de l'attaché presse de Beyoncé qui avait contacté aussi un média pour faire retirer des photos qui ne la mettaient pas à son avantage, et en fait, ça avait donné encore plus de visibilité à ces photos-là. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent survenir lorsqu'on fait appel à une agence de nettoyage. Après, ça coûte bien sûr plutôt cher parce que bah, après, il y a toute la mécanique de couvrir les prestations à travers des jolis mots que les dirigeants ou que les marques ne vont pas forcément comprendre. Donc il va y avoir aussi des mécaniques parfois officieuses, c'est-à-dire qu'on va, comme le disait tout à l'heure un de vos intervenants, on va noyer le contenu qu'on n'a pas la capacité de retirer, que ce soit au niveau de l'effacement ou au niveau du déréférencement. Donc on va noyer le contenu avec d'autres contenus choisis par la marque et choisis par l'agence. Ça va plutôt plus ou moins bien fonctionner pendant une période bien déterminée. Et l'idéal, c'est qu'en fait, on puisse noyer ces contenus le temps qu'on arrive à faire retirer les articles ou les photos qui portent préjudice. Après, les forfaits sont changeants lorsqu'on fait appel à une agence d'irréputation. Ça dépend de ce qu'on demande. Ça dépend si on demande, par exemple, la modification d'une page Wikipédia, qui normalement n'est pas censé se faire de manière officielle. Ça dépend si on demande de retirer juste un lien. Est-ce qu'il s'agit d'un lien d'un article? Est-ce qu'il s'agit d'un lien de 60 millions de consommateurs? Est-ce qu'il s'agit d'avis sur une plateforme telle que TripAdvisor? Donc en fait, les tarifs varient en fonction de la prestation demandée.
Merci beaucoup Mounira Hamdi, je conseille votre livre Bien gérer sa réputation sur internet. Merci également Bertrand Payès. Il faut aller sur le site de la CNIL où il y a des outils très intéressants, notamment sur comment effacer les traces de la haine en ligne. J'aimerais qu'on fasse une émission consacrée à la haine en ligne. Merci Jérôme Colombin. On peut lire avec profit, faut-il quitter les réseaux sociaux? Merci Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques. Déclic, c'est publié aux Arènes. Merci beaucoup Michael Stora d'être venu à nouveau dans cette émission. Demain, grand bien vous fasse, loisirs. Il s'agira de cuisine, de voyage, de sport. Pourquoi vous regardez comme ça, Julia? Vous avez envie de venir? Venez, table ouverte.
Je viens.
À demain.